Code d'économie.
À la une, les 9 sacs de minerais saisis par les services de sécurité à Opala en province orientale, estimés à des milliers de dollars, ces bauxites et cassitérites appartiendraient à un réseau d'exploitants clandestins. L'actualité, c'est aussi le bilan de la campagne fiscale 2012. Sur les 7 milliards de francs congolais attendus, seuls 300 millions ont été récoltés, d'après la cellule financière et fiscale de la ville de Kinshasa. Après 2 jours des travaux, le comité de gestion du consortium WAX décide d'entretenir le point de connexion du câble WAX à Mwanda dans le Bas-Congo et renforcer également la maintenance du câble dans l'ensemble du système. Objectif, éviter les pannes récurrentes dans le système. Bonsoir à tous. Province orientale pour commencer. 9 sacs de minerais de cassitérite et de bauxite ont été saisis par les services de sécurité à Opala au moment de leur évacuation clandestine. D'après le commissaire du district de la Tchopo qui livre l'information, ces minerais estimés à plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, appartiennent à un homme d'affaires bien connu à Kisangani. La société civile qui confirme également l'information estime qu'il faut une enquête approfondie pour démanteler le réseau d'exploitants clandestins de ces minerais et vérifier si cette exploitation clandestine des matières premières a un lien avec l'insécurité dans ce territoire. C'est une correspondance de Joseph Bassay de la radio Bondeko.
Les 9 sacs de ces minerais de cassitérite et de bauxite sont actuellement gardés à Opala en attendant la clôture des enquêtes préliminaires des services de sécurité. Selon les commissaires du district de la Tchopo, l'ordre est déjà donné à l'administrateur du territoire d'Opala pour les transferts du dossier à qui sont gagnés au plus vite. D'après les témoignages des autorités administratives d'Opala, ces sacs des minerais étaient classés ensemble avec les sacs de riz dans une pirogue en destination de Kisangani. Les convoyeurs citent un homme d'affaires bien connu à Kisangani comme le propriétaire des minerais. Selon la société civile, ces 9 sacs de cassitérite confirment l'hypothèse de l'exploitation clandestine des minerais et des menaces des espèces protégées à Opala. C'est le cas des ivoires souvent évacués clandestinement du parc de la Lomami pour Kisangani. Actuellement, le groupe Mai Mai Fidèle Atom Sibesela opère dans cette région. La société civile demande aux autorités d'enquêter profondément sur ces dossiers pour identifier les réseaux de ces exploitants clandestins. Elle demande également aux services de sécurité de bien vérifier si cette exploitation a un lien avec l'insécurité devenue récurrente dans ces territoires ces derniers temps. Isangi Joseph Bassaï, Radio Bondeko pour Radio Okapi.
En parlant des minerais, sachez que la question de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, était à la une ce mercredi à l'Assemblée nationale. Dans une question d'actualité, le député Jean-Pierre Chimangabwana avait émis des inquiétudes face au retard accusé dans la collecte des rapports par les entreprises minières. Ce qui, d'après ce député, risquait de compromettre l'élaboration et la publication du rapport prévu pour décembre 2013. En réponse, le ministre du Plan affirme que la totalité des entreprises ont déjà déposé leur formulaire de déclaration. Célestin Vounabandi a confirmé par ailleurs que la publication de ce rapport interviendra au mois de décembre courant. Ses propos sont recueillis par Mimi Ngumba Mulungu.
Au 28 octobre 2013, le secrétariat technique de l'ITRDC a fait le point sur la situation de la collecte des données et a constaté que 61 entreprises minières n'avaient pas encore retourné le formulaire de déclaration à 4 jours de la date butoir fixée par l'administrateur indépendant. L'alerte a été donnée et relayée par les médias dans le but d'obtenir de toutes les parties prenantes un appui substantiel afin que la date butoir du 2 novembre 2013 soit respecté. Une fois saisi de cette information, le comité exécutif de l'ITRDC s'est chargé de diligenter des missions accompagnées des mesures coercitives dans la province du Katanga et dans la province orientale où sont situées les entreprises minières en question. À telle enseigne que du 28 octobre au 3 novembre 2013, la totalité des entreprises ont déposé à l'administrateur indépendant leur formulaire de déclaration. Pour ce qui est de la publication du rapport au 31 décembre 2013, le comité exécutif est totalement mobilisé pour y parvenir et nous pensons boucler l'élaboration de ce rapport au cours des 2 prochaines semaines.
Le lancement hier à Kinshasa de la campagne fiscale de l'impôt foncier 2013 a coïncidé avec la clôture de la campagne 2012. Cette campagne 2012 a récolté 300 millions de francs congolais sur plus de 7 milliards attendus. Sur quoi porte exactement cet impôt foncier? Emmanuel Matagli, coordonnateur de la cellule financière et fiscale de Kinshasa, répond à Daniel Tambinzoni.
L'impôt foncier porte sur les propriétés foncières et immobilières, c'est-à-dire si vous avez ce que nous appelons une parcelle ou avec 100 maisons, bien vous êtes redevable de cet impôt. Chaque année, vous devrez payer un montant donné au trésor de la ville de Kinshasa.
Comment vous le calculez, ce montant payé?
Il y a un arrêté provincial du gouverneur qui catégorise les propriétés selon qu'elles sont situées dans les localités. Premier rang, pensez ici à la Gombe, limité industriel et résidentiel, Binza par exemple, Pigeon, ainsi de suite, Ipen. Et deuxième rang, pour certaines communes, pensez ici au quartier Salongo par exemple. Troisième rang, pensez ici à Matete. Et quatrième rang, nous avons pratiquement tout le reste, Kisenso, Kimbanseke, Makala, ainsi de suite. Pour le quatrième rang, c'était 5000 francs congolais. Donc les gens qui habitent le Bumbu, le Kimbanseke, le Kisenso, c'était 5000 francs congolais. Pour les localités de troisième rang, c'était 25000. Deuxième rang, 50000. Mais on a gardé le mesurage pour les premiers rangs, c'est-à-dire pour Gombe et ainsi de suite, mais on n'a pas réalisé une grande recette dans cette catégorie-là.
Monsieur le coordonnateur, quel bilan vous pouvez faire alors de cette campagne 2012 que vous venez de clôturer? Est-ce que ça vous encourage de lancer la campagne de 2013 et poursuivre 2014-2015?
Oui, on a trois résultats principaux. Sur le plan purement financier, la recette a été très encourageante. On est arrivé pratiquement à environ 300 millions de francs congolais, alors qu'avant cette campagne, les personnes physiques ne payaient qu'aux environs de 50 millions. De deux, nous avons maintenant un répertoire qui va jusqu'à 160 000 contribuables identifiés avec nom et adresse. Et de trois, la sensibilisation de la population par rapport au civisme fiscal en général et à cet impôt a vraiment porté du fruit, parce que maintenant le pot foncier est devenu vraiment un refrain sur les bouches de tous les Quinoises et Quinois.
Donc si tous les Quinoises et Quinois savent ça, on parle avec autant de parcelles qu'on a dans la capitale, les recettes restent encore minimes.
Oui, les recettes effectivement restent minimes par rapport aux prévisions, parce qu'on avait prévu réaliser environ 7 milliards, mais je vous ai dit tout à l'heure que les premiers rangs n'ont pas payé. Or, la Gombe-Celle pouvait nous apporter déjà plus de 4 milliards.
Et c'est là où sont logés de grandes personnalités de ce pays qui refusent de payer l'impôt, justement. C'est par là que doit jouer beaucoup le civisme fiscal.
Le rapport final a fait une proposition au gouvernement provincial, c'est celle d'instituer une journée paiement impôt foncier pour tous les membres des institutions politiques nationales et provinciales résidant à Kinshasa et l'installation des guichets bancaires dans leurs institutions. Parce que vous voyez une commune telle que Makala, qui se retrouve être enclavée sans pratiquement beaucoup d'infrastructures, mais elle a été un grand exemple. Elle s'est située pratiquement la première, considérant la proportion des gens qui ont été identifiés. Donc, il faudrait que des communes comme celle-là puissent bénéficier, si vous voulez bien, d'une impulsion qui vienne des autres communes, comme vous dites, où sont installées toutes nos institutions et même où habitent les
grandes personnalités
des institutions, c'est-à-dire ministres, députés nationaux et provinciaux.
Emmanuel Matadi, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Pendant ce temps, à Guémena, dans la province de l'Équateur, les commerçants membres de la COGEM s'insurgent contre la SONAS. Ils protestent contre ce qu'ils qualifient de paiement obligatoire de la police d'assurance anti-incendie. Dominique Colombie.
Pour manifester leur mécontentement, les boutiques et échoppes des commerçants de Guémena sont restées fermées hier, mercredi et ce jeudi. Pour Ebele Muninga, président de la COGEM, les chefs d'agence de la SONAS appliquent mal les dispositions relatives au paiement de cette police d'assurance. À Kinshasa, d'où il revient, dit-il, les petits commerçants ne la payent pas. Pourquoi seulement ceux de Guémena? On écoute Ebele Muninga, président de l'association des commerçants de Guémena.
À Kinshasa, les commerçants ne payent pas cette SONAS. Or, là-bas, à Kinshasa, le siège des institutions, de toutes les institutions du pays.
Pour sa part, le chef d'agence de la SONAS fait savoir que l'assurance anti-incendie est obligatoire. Il ne la fait pas payer sous pression. Certains commerçants de Guémena ont d'ailleurs déjà souscrit à cette assurance. Il accuse le président de la COGEM d'inciter ses membres à ne pas se soumettre à cette obligation fiscale. Le chef d'agence est Kelly Seka Malombo.
Certains commerçants ont déjà souscrit leur police d'assurance incendie. Mais le président des commerçants de Guémena, c'est lui qui est en train d'inciter les gens à ne pas payer. Les gens ne paient pas sous pression. Ils viennent d'eux-mêmes. Nous sommes en train de conscientiser les commerçants pour s'assurer, pour souscrire leur police d'assurance qui est obligatoire. C'est pour leur intérêt.
Jusque-là, aucune médiation n'est encore menée entre les deux parties pour trouver un terrain d'entente. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapangi, Radio Okapi.
Bientôt, un système de vidéosurveillance sera installé au pont maréchal Mobutu de Matadi. Des ingénieurs serbes et congolais sont déjà à pied d'œuvre, d'après le directeur de l'OEBK. L'installation de ce système de vidéosurveillance va permettre de contrôler toute tentative de fraude et de sabotage du pont, mais aussi rentabiliser de plus en plus le poste de péage. Au Sud-Kivu, la société Banvo vient de lancer à Walungu des travaux de réhabilitation de la route Chirango-Mukungwe, un tronçon routier de plus ou moins 12 km. Ces travaux d'agrandissement, de remblayage et de construction de 4 ponts vont faciliter notamment les transactions commerciales. Il s'agit ici d'un projet prioritaire qui figure dans le plan de développement du groupement de Mushinga.
Écho d'économie.
Décongestionner la ligne Wax pour éviter et prévenir des pannes récurrentes dans le système, telle est l'une des résolutions prises par le comité de gestion du consortium Wax. Cette information a été annoncée à la presse ce jeudi à Kinshasa par Casimir Ilunga, directeur à la SCPT et membre du comité de gestion du consortium. C'était à l'issue des travaux de 2 jours de ce comité tenu ici à Kinshasa. Selon lui, il s'agit d'entretenir le point de connexion du câble Wax à Mwanda dans le Bas-Congo et renforcer également la maintenance du câble dans l'ensemble du système. Casimir Ilunga est au micro de Paul Matendo.
Il est question de prendre des dispositions pour sécuriser le beach manhole. Ça, c'est un travail auquel nous allons nous atteler dès la semaine prochaine. Parce que si nous avons des problèmes à ce niveau-là, la réparation ne se fera pas en une semaine. Il faudra attendre 2-3 mois pour que le beach manhole soit réhabilité. Vous imaginez, c'est la coupure de la RDC sur les autoroutes de l'information pendant au moins 1 mois. Il y a aussi la question de maintenance qu'il faudra améliorer parce qu'au cours des 6 derniers mois, nous avons connu quelques pannes sur les câbles wax. La première panne, c'est celle qui est intervenue dans les eaux territoriales de la RDC. Et nous avons connu aussi la coupure de câbles au niveau de Ghana. Nous avons pris des dispositions pour améliorer la maintenance de manière à ce qu'on puisse éviter la congestion sur notre réseau.
Ainsi s'achève cette édition supervisée par Nicole Ngaka, réalisée par Daniel Tambinzoni, mise en onde par Héritier Sidiakala et suivie par vous. Merci.